Bonjour à tous. Nous avons entendu tout à l'heure cette expression formidable des huissiers envoyés par les pharisiens dans Jean 7 qui a dit « Jamais personne, jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Ils étaient envoyés pour arrêter Jésus. Et voilà, ils étaient, j'allais dire, comme on dit actuellement, cassés. Ils sont rentrés à voir leur chef en disant, pas possible quoi, on arrête là. Et ceci me fait penser à ce que dit Jacques dans son épître, qui dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? La sagesse. Comment pouvons-nous être sages et intelligents? Nous connaissons tous les proverbes qui abordent ce thème. Nous lirons beaucoup de textes à ce niveau. Mais on peut dire que notre monde actuel, notre 21e siècle, est un monde, j'allais dire, repu de connaissances, mais dépourvu de sagesse. Quelqu'un a écrit, on estime que depuis 1955, la somme des connaissances humaines double tous les 5 ans. Quelqu'un a affirmé que notre génération possédait davantage de données scientifiques que toutes les générations de notre histoire sur des sujets aussi divers que l'univers dans lequel nous évoluons ou la psychologie de l'être humain. Un simple élève de terminale a beaucoup plus d'informations à portée de son esprit que Platon, Spinoza ou Franklin. Malgré cela, notre société manque désespérément de repères. C'est pas moi qui le dis, il suffit d'écouter les médias. Et on dit, oh les jeunes, il n'y a plus de repères. Les grands savants de notre planète ont concentré leurs efforts d'analyse sur des segments minuscules de notre vie. Ils peuvent discourir pendant des heures avec leurs homologues sur des sujets qui sont obscurs pour les non-initiés, mais fascinants à leurs yeux. Mais le problème, c'est que ils sont, bien que remplis de connaissances, incapables de vivre en harmonie avec leur famille ou leurs amis. Nous savons que l'instruction, aussi poussée soit-elle, ne résout jamais les problèmes de la relation entre les humains. Les nombreuses guerres qui pourrissent notre planète en sont la preuve. En effet, la connaissance ne débouche pas sur la sagesse. Cela, je l'ai tiré sur la petite fascicule de Sa Parole aujourd'hui, du 6 et du 7 décembre dernier. Nous sommes remplis de connaissances. Le roi Salomon savait bien que pour gérer les conflits au sein de son peuple et guider celui-ci avec succès, il avait besoin de la sagesse divine. Vous vous rappelez la prière de Salomon? Il demande au Seigneur, et si nous lisons dans 1 Chronique 10, pour rappeler seulement. 1 Chronique 10. Non, chapitre 1er. 2 Chroniques, chapitre 1er. J'inverse tout. 2 Chroniques, chapitre 1er. Et le verset 10. Voilà la prière de Salomon. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache conduire, me conduire à la tête de ce peuple. Je répète. Donc, 2 Chroniques au chapitre 1er. Ceux qui ont du mal à trouver, écoutent seulement. Donc, écoutez. Dans sa prière, avant, bien sûr, la construction du temple, la prière de Salomon, où il demande ceci: « Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple ?» Ce peuple si grand. Je disais que Salomon avait bien compris que pour assurer sa responsabilité de roi, il avait besoin de la sagesse divine. Sans cette sagesse, impossible pour lui de gérer ses responsabilités. Comment gérer nos connaissances si vastes actuellement? Vous avez entendu de Charles Spurgeon, cet évangéliste anglais, je crois qu'il était au XVIIe siècle, ou XIXe siècle plutôt, XIXe siècle. Il a dit « La sagesse permet d'utiliser à bon escient nos connaissances. » Bien des hommes débordent de connaissances et sont pourtant des grands idiots. Est sage celui qui sait comment se servir de sa connaissance. Charles Spurgeon. Et Salomon d'ajouter, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis ou déterres comme un trésor, alors tu pourras, tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça, vous le trouvez dans Proverbes au chapitre 2, versets 4 à 5. La sagesse, dit notre roi Salomon, la sagesse doit être recherchée. Et creuser même, travailler. Et cela me fait penser à ce qu'a dit le Seigneur Jésus concernant le royaume des cieux, qu'il compare à un trésor caché, qu'il faut chercher, qu'il faut, je dirais, investir son temps, son argent, parce que la personne qui l'a trouvé, il va acheter le terrain. Là où le trésor est caché, il va investir toutes ses richesses. Vous trouverez ça dans Matthieu. Matthieu au chapitre 13, verset 44. Nous allons voir cela. Oui, Salomon dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors dans Matthieu au chapitre 13, le royaume des cieux est encore semblable à 1, verset 44 bien sûr. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Quand nous voyons cela à travers ce que dit Salomon, nous pouvons imaginer l'investissement face à un trésor. Et Salomon nous parle de la recherche de la sagesse comme cela. Au verset 45, toujours de Matthieu 13, il est dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il l'a trouvée, une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Je ne sais pas si moi-même, vous, nous pouvons saisir cette façon de s'investir pour acquérir la sagesse. C'est vrai, on peut se dire, mais où je vais la chercher, cette sagesse? Mais ce qui me frappe dans les déclarations de Salomon, cette sagesse est appelée à nous faire comprendre ce qu'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est un rapport vis-à-vis de Dieu. Et ce rapport vis-à-vis de Dieu nous amène à la connaissance de Dieu. Il semble qu'il nous amène à mettre le doigt dessus. Et quand j'ai lu la fin de ce verset qui dit « Tu trouveras la connaissance de Dieu », je me suis dit « Jean 17, verset 3, qu'est-ce qu'il est dit là ?» Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alors, en arrivant là, je suis perdu. Je ne sais pas où aller. On me parle de royaume de Dieu, on me parle de trésor, on me parle de la connaissance de Dieu, on me parle de... Mais je sais une chose, qu'il est possible d'avoir de la sagesse. Ces textes m'orientent vers cela. Je sais aussi que, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, Dieu a voulu mettre à notre portée cette sagesse dont il parle. Salomon l'a demandé. Il était jeune. Il vient d'être nommé roi à la place de son père. Et il demande à Dieu la sagesse. Nous connaissons la suite du texte dans 2 Chroniques au chapitre 1er. Dieu lui accorde la sagesse. Si nous, comme Salomon, nous demandons à Dieu la sagesse pour nous guider dans la vie, dans nos décisions, dans nos responsabilités, et vous pouvez rajouter tant d'autres situations, il nous l'accordera. Vous connaissez Jacques au chapitre 1er et au verset 5, lisons ce texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Est-ce tellement difficile de la demander ? Mais bien sûr, la première chose à faire, si la sagesse nous manque, il faut en être conscient. Mais revenons à notre situation plutôt générale au niveau du monde. Si la sagesse est si simple à acquérir, comme nous voyons cela dans Jacques au chapitre 1, verset 5, pourquoi tant de gens ne la demandent-ils pas? Et même des chrétiens. Pourquoi? Parce que peut-être on se croit déjà assez sage pour se débrouiller seul dans la vie. Oui, demander à Dieu la sagesse exige avant tout d'être conscient de son besoin. Si j'en ai pas besoin, je ne la cherche pas. Je ne la demande pas. Un grand homme encore, Benjamin Franklin, a dit avec raison, « Le seuil du temple de la sagesse est la connaissance de notre propre ignorance. » Le seuil pour entrer dans la notion de sagesse, c'est reconnaître que nous n'en avons pas de sagesse. C'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est comprendre et accepter que Dieu est la seule source de la vraie sagesse. Proverbe au chapitre 2. Proverbe au chapitre 2. Verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La sagesse de Dieu dépasse de loin tout ce que nos esprits humains peuvent imaginer. L'apôtre Paul est allé jusqu'à écrire ceci. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 5. Comment imaginez-vous la folie de Dieu? Comment imaginez-vous la folie de Dieu? Essayez d'imaginer que Dieu soit capable d'une pensée qui pourrait être qualifiée de folie, de stupidité ou autre. Imaginez cela. Et même s'il en est ainsi, ce qui est faux bien sûr, cette pensée serait mille fois plus intelligente que la plus sage des pensées humaines. Je relis ce que dit l'apôtre Paul, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Mais à quoi me servira cette sagesse une fois acquise? Si j'en ai pas besoin, pourquoi la chercher? Mais si j'en ai besoin, le roi Salomon nous dit, cherche-la comme un trésor. Oui, la sagesse me servira à vivre selon la volonté de Dieu. Avoir la vie comme Dieu la voit. La sagesse n'est pas une philosophie. C'est avant tout une action. Elle se voit, s'entend, partout. Partout où celui où la sagesse a été investie, où s'est investi, se trouve. Dans Proverbes chapitre 1er, nous voyons comment la sagesse se montre. D'une manière poétique, bien sûr, mais elle se voit. Verset 20 du chapitre 1er des Proverbes. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses voix. La sagesse se voit, s'entend. Ici, la sagesse est personnifiée. Mais si l'un d'entre nous est sage, si l'ensemble des personnes ici sont sages, ça se verrait autour de chacun. Partout où la personne se déplace, partout où la personne se trouve. C'est ça être possédé par la sagesse. Nous avons parlé et nous parlons de la sagesse divine. Revenons dans Jean au chapitre 7. Verset 37, la deuxième partie du verset 37, la déclaration de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39, en commentaire, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si la sagesse est de Dieu et que nous entrons dans le plan de Dieu, nous recevons Dieu lui-même par notre foi en Jésus. Nous sommes donc appelés à entrer dans la vie où Dieu lui-même anime notre être par le Saint-Esprit. Nous sommes donc appelés à vivre dans ce monde animé par l'Esprit de Dieu. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. La sagesse marque nos décisions et nos actions. La gestion de nos finances, nos choix, nos émotions, nos souffrances, nos joies, nos relations avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu lui-même. Alors je reviens à ce texte que j'ai cité tout à fait au début, que nous trouvons dans Jacques au chapitre 3, verset 13, puis nous poursuivons au verset 17. Jacques 3, juste avant Pierre. Jacques, chapitre 3. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modéré, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. La sagesse d'en haut. Au chapitre 1er des Proverbes, au verset 7, il est dit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Mais s'il y a un début, il y a une finalité. Sa finalité est de nous aider à marcher en harmonie avec notre Créateur. Nous jouissons ainsi de son amour, de ses bénédictions. Elle nous rend capables d'aimer en action notre prochain, comme nous-mêmes. Vous connaissez cet ordre de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il y a ce beau proverbe au chapitre 3, les versets 5 à 7 et puis le verset 13. Proverbe 3. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Jacques nous appelle à demander la sagesse. Salomon nous montre combien il avait besoin de sagesse pour assurer, pour faire face à ses responsabilités. Deux personnes qui ont vécu à des moments différents, mais animées par le même esprit, l'Esprit de Dieu. Animées de ce fleuve d'eau vive qui coule. Et nous, comment voyons-nous notre attitude face à la proposition de Dieu ? Différents passages de la parole de Dieu nous en parlent, suivant le contexte, des variations. Mais le fond est là. Est-ce que j'ai besoin de sagesse quand je suis jeune? Ou il me faut attendre quelques années? Ou, quand j'ai 50 ans, est-ce que j'ai besoin de la sagesse? Ou seulement pour les jeunes de 30 ans qui sont en pleine activité? Peut-être que je me dis, oulala, j'ai dépassé les 60 ans, les 70 ans, oh, c'est trop tard, j'en ai pas besoin. Mais il s'agit pas ici d'une relation vis-à-vis de nous, ce qui nous entoure. Il s'agit avant tout de notre relation quant à l'opinion de Dieu face à la sagesse. Donc nous en avons besoin à tout âge. Parce qu'à tout âge, nous avons à vivre. La sagesse détermine une relation, des actions, des décisions. Et je ne pense pas qu'à partir de 60 ans, on s'arrête de vivre. Demander la sagesse d'en haut exige premièrement d'être conscient de son besoin. Il faut se croire fou. Deuxièmement, de comprendre que accepter que Dieu seul est la source de la vraie sagesse. Jusque-là, la sagesse est loin de moi. Je reconnais mon besoin, je reconnais que Dieu seul donne cette sagesse-là. La sagesse d'en haut, la vraie sagesse, selon Proverbe 2, verset 6, il me faut la demander. Et là, nous revenons dans Jacques, au chapitre 1er. Et nous allons conclure là. Jacques, chapitre 1er. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il faut en être conscient, qu'il la demande à Dieu, c'est-à-dire croit que Dieu seul peut donner, qui donne à tous simplement, sans reproche. Et si elle lui sera donnée, et elle lui sera donnée. Et la suite. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous sommes appelés à faire ces démarches-là. Et je me dis, et je me le dis encore maintenant, qu'est-ce que j'attends de la sagesse? Est-ce que j'attends de la sagesse une réussite professionnelle? Est-ce que j'attends de la sagesse que mes finances augmentent? Qu'est-ce que j'attends de la sagesse? C'est toute la conception que je me fais de la sagesse qui est là. Mais je peux démarrer sur ces points-là. Mais c'est Dieu qui décide. Alors revenons à l'histoire de Salomon. Dans 2 Chroniques, au chapitre 1er. Et on va s'arrêter là. Hein? 2 Chroniques, au chapitre 1er. Et on va noter la réponse de Dieu. Verset 11. Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi. Et comme n'en aura aucun après toi. je laisse à Dieu toute décision. Mais quant à la sagesse, je vais la lui demander. Et si par cette sagesse, Dieu permet que j'ai d'autres choses pour le servir, pas de problème. Mais j'ai besoin, avant tout, comme Salomon, la sagesse de Dieu. Voilà quelques réflexions sur la sagesse. Et je pense encore à cette déclaration des huissiers qui sont venus pour arrêter Jésus. Personne n'a parlé comme lui. Amen.